c'est du vrai trapèze, ça c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i-o, i-a, elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i-o, i-a, oh tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dites les potes, oui les papas, oui les Diana, oui les Charlotte, oui les Didi, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas.
Et dis Bobby, si ton papa tu cherches, ben je vais te le rendre.
Ça commence avec ton rire. Buonasera, buonasera. Quel piacere, che mi fa. Non, ça n'intéresse que moi, d'accord. Bonsoir. C'est la causerie, on est dimanche soir, 22h. Vous êtes sur Radio Canu. Vous pouvez nous écouter aussi sur radiocanu.org, il me semble. Et ben moi, c'est Louli, je suis revenu, c'est mon comeback. Comme dirait Sheila, comme les rois mages en Alilé. Et puis, bah, y a alors Joséphine, Françoise et Christelle
qui sont
présentes. Mais nous avons dans la salle des invités, parce qu'on est en direct en public. Nous avons des invités. Bon, donc Clara. Salut, c'est Clara.
Bonsoir.
Voilà. Vanessa.
Bonsoir.
Et Jessica, qui nous vient tout droit d'Angoulême.
Bonsoir.
Voilà. Et je passe la main à Julien Lepers.
Bah, tu n'as même pas voulu nous présenter, nous. Tu vois, ça c'est pas.
Ah, j'ai oublié de dire que le truc, machin, Gmail et tout.
Mais non, mais t'as
même pas
dit qu'il y avait du monde et tout. Enfin,
ouais, alors, à la technique, on a Emma pour la première fois, voilà. Il me semble.
Ouais.
Ouh, on représente. Et la fille.
Et mon assistante.
L'assistante rigoleuse.
Voilà. C'est bien.
Oui. Donc, et Fabienne.
Oui, c'est moi. Voilà. Et donc, tu es de retour, Louli, ça fait du
bien. Mais je crois que ma voix, elle sature, en fait.
Ouais, en fait, il y a un super effet d'écho dans les casques. On ne sait pas d'où il vient, voilà. Mais c'est magnifique.
On dirait qu'on parle dans un interphone.
Ouais. J'ai l'impression d'être dans Gravity, le film.
C'est pour marrant. La pizza.
Et, bah oui, alors tu disais, oui, alors pour réagir, c'est lacausericanu@gmail.com.
Tout à fait.
Ou c'est sur notre blog, à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Voilà. Et Louli, tu reviens d'Italie et t'as un super sujet du coup dont tu voulais nous parler.
Alors, je vais essayer d'être bref et concis, donc je compte sur vous pour me faire des signes parce que ça va se passer. Voilà. Donc, je reviens d'un pays merveilleux, magnifique, qui est plein de contrastes et de traditions. Tradition assez funky, dont une certaine tradition politique qui est le gouvernement qui de temps en temps, alors on utilise une expression en Italie qui est tombé, le gouvernement tombe. En fait c'est la dissolution du gouvernement et il se trouve que je me suis trouvé là-bas durant cette dissolution qui est la troisième en un an et demi. Donc c'est la troisième fois en un an et demi que le gouvernement tombe. Donc dans ce contexte-là assez précaire, qui est d'ailleurs symptomatique d'un désintérêt... désintérêt ou désintéressement ? Personne ne m'écoute.
Désintérêt.
D'un désintérêt.
Je t'écoutais, mais je t'entends trois fois dans le
casque. Oui, c'est vrai, ça fait vous, wow. Donc c'est symptomatique, alors ce gouvernement qui tombe, c'est symptomatique du désintérêt des gens pour la politique, c'est symptomatique des limites de tout ce qui est système de votation et de délégation du pouvoir, et je pense qu'on reviendra là-dessus, et c'est symptomatique du fait que la politique telle qu'on la connaît dans nos républiques pseudo-démocratiques, c'est un peu, on arrive à la fin, quoi. Voilà. Donc, comment fait un gouvernement pour tomber? C'est très simple. C'est des petites coalitions. Alors, gauche-droite, c'est pareil, parce qu'ils vendent tous la même soupe. Donc, des petites coalitions qui arrivent au pouvoir. Et en ce qui concerne l'Italie, c'est une république parlementaire, donc c'est le Parlement qui décide de tout, aussi bien de nommer un président de la République qu'un Premier ministre. Au Parlement, les députés arrivent par des coalitions diverses et variées. Et si j'ai pas la coke que tu m'as promis, si j'ai pas la vénézuélienne qui sort du concours Miss Monde de préférence mineure, si j'ai pas ce que tu m'as promis quand on a fait nos magouilles, je suis pas d'accord. Je t'enlève la confiance du Parlement, le Premier ministre perd sa confiance, et on se retrouve avec un pays sans gouvernement, et là, il se trouve que c'est la troisième fois en un an et demi. Donc, dans ce contexte-là, j'ai même participé à une manifestation. Oui, voyou. En tant que reporter international, hein, je suis un peu appris le Nil. Ouais. Voilà ma carte de presse, oui.
Mais si t'as appris le Nil, on est les Tortues Ninja, alors.
Tout à fait. Avec des prénoms italiens, ça tombe bien. Et donc, alors, la manif s'appelait Via la Divisa. Elle avait un nom, cette manif, hein, si on peut donner un nom à une manif. Donc, qui veut dire enlever vos uniformes. Et donc, il y avait plusieurs thèmes autour de cette manifestation qui a rassemblé quand même 5000 personnes. J'étais présent, j'ai vu, ouais, on était bien 5000, c'est clair, de tout horizon. Moi-même, j'étais au volant d'une poussette avec un enfant dedans. Donc, il y avait des personnes âgées, des vieux de la vieille. Voilà, il n'y avait pas de couleur politique, il n'y avait pas de parti. C'était vraiment des gens, quoi, des citoyens, si c'est pas encore un gros mot, qui étaient là pour exprimer leur colère et leur désaccord par rapport à ce qui est devenu un fait divers, mais qui est quand même un truc qui se produit de plus en plus, et qui est ce qu'on appelle un meurtre d'État. Donc la thématique principale de cette manifestation, c'était les violences policières, et en l'occurrence à l'initiative de la famille d'un jeune qui s'appelle Federico Aldrovaldi, qui a été retrouvé mort en 2005 dans un parc, la cage thoracique broyée, apparemment par des coups de genoux, suite à un contrôle de police qui a très mal tourné.
A priori, il a même très très mal tourné. Là.
Ah, voilà. Quatre gendarmes qui, suite à ce contrôle, bah, voilà, les raisons de sa mort, c'était un peu sa faute parce qu'il avait bu, il avait fumé, donc ça justifie la violence de quatre policiers, hein, qui l'ont tapé tellement fort, d'ailleurs, selon les rapports, que deux matraques ils ont cassé deux matraques, quoi.
En le frappant,
ouais, voilà. Mais c'est lui, c'est parce qu'il était trop fort, il était sous emprise de plein de choses. Donc ces policiers-là ont été condamnés en 2012. Alors ça s'est passé en 2005. 7 ans de procès avec des épisodes où les syndicats policiers ont été se moquer de la maman du gars qui est mort quand même, hein, qui sont partis brandir des panneaux pour dire « nous on est au-dessus de la loi, on t'emmerde, machin et tout ».
Tu dis ça, c'était devant chez elle.
Sous les fenêtres de son boulot.
Ah mais d'accord.
Voilà, ouais, le principal syndicat de police italien est parti avec des banderoles pour dire nous on est au-dessus de la loi et voilà on t'emmerde, toi et ton fils qui est mort. Voilà. Et donc 7 ans de procès, ils ont été condamnés enfin finalement en 2012 à chacun 3 ans et demi à peu près. Tous les quatre, hein, les quatre policiers, sauf qu'ils ont eu des réductions sur réductions sur réductions, encore mieux que chez Yves Rocher. Et donc, en gros, alors il y avait une femme et 3 hommes. La femme a fait 1 mois, et les hommes entre 3 et 6 mois, les 3 autres. Voilà, pour un meurtre d'État. Après une pseudo-suspension d'un an de leur fonction. Ils ont repris leur fonction maintenant, là, en février. Et la manif, c'était justement, non, un flic qui a tué ne peut pas revenir faire son boulot, si on peut appeler ça un boulot. Dans ce qui ressemble, enfin, à mon sens, et je pense à de l'impunité, en fait, parce qu'ils ont tué, ils reviennent au boulot comme si de rien n'était, en purgeant une peine qui, je sais pas, enfin, quand on n'est pas flic, la peine, on la purge. En entier, c'est bizarre. Hein. Alors que, voilà, ils ont eu plein de réductions. C'est pas le seul cas de violence extrêmement fort, comme ça, extrêmement marquant, dont on parle dans les médias et qui ont autant d'écho. Il y a d'autres exemples que je tiens à vous mettre sur le blog. Je mettrai les noms et tout ça précis parce que c'est relégué aux faits divers, mais c'est quand même des cas extrêmement, mais vraiment, j'insiste sur le mot, extrêmement violents. Il y a un jeune qui a été retrouvé mort pendant qu'il purgeait sa peine. En 2009, par exemple, il a été roué de coups par le personnel, par les gardiens de prison. Et ça a été couvert par les médecins et par les gardiens, donc par tout le personnel pénitentiaire. Il y a eu des faux rapports de décès, tout ça, carrément. Des gens donc, qui ont été condamnés cet été. Donc 2009, cet été, en 2013, ça fait 10 ans. Ça fait 4 ans encore de procès pour quelqu'un qui est mort sous le coup de forces de l'ordre, enfin de gens qui ont un rapport avec la justice. Enfin, ils sont condamnés, mais pour l'instant, les peines sont suspendues. On ne sait pas par quelle grâce divine, on va dire. Hein. Voilà, Inch'Allah. Voilà, donc il y a d'autres cas. Hein. Donc il y a ce jeune-là qui a été roué de coups en prison. On le sait. Ça a été démontré qu'il y a eu, il y a eu faux et usage de faux par rapport aux résultats médicaux, aux analyses. Mais voilà, peine suspendue. Pareil pour un autre jeune qui a été retrouvé mort et qui apparemment aurait même été violé pendant un interrogatoire, alors qu'il avait été interpellé parce qu'il était ivre. Mais bon, parce qu'il était ivre, il a mérité qu'on le tape d'abord et qu'on le viole ensuite et qu'on dise, bah voilà, il est mort parce que c'est un alcoolo et voilà, c'est tout. Et lui, il est mort en garde à vue, en fait, enfin, pendant l'interrogatoire, quoi. Voilà, donc il y a plein d'exemples comme ça. Il y en a un autre très violent et très marquant qui a eu un écho international, c'est en 2001, les opposants au G8, vous savez qu'il y avait eu le G8 à Gênes. Donc il y a un jeune qui s'appelle Carlo Giuliani qui était ils l'ont je crois mais fracassé le crâne, ça, il me semble, ouais, lors d'une alors que c'était un groupe d'alter mondialistes, il y avait des revendications diverses et variées autour de ce G8 qui était le dernier d'ailleurs G8 dans un lieu accessible, il me semble, dans une ville accessible, ouais. Vu ce qui s'est passé, énormément de débordements, c'est mai 68 puissance 15 000. Oui, Jean-Yves.
Mais c'est drôle en fait comme je m'entends pas, de moi, mon casque. En fait, c'est drôle comme en fait, ils ont peur du peuple, en fait.
Oui, voilà.
Dès que le peuple, il montre un tout petit peu de résistance, sauf quand ils sont d'extrême droite, en fait, ben, le gouvernement, il se met à l'écart, quoi. Il a peur, en fait. Alors que bon, quand c'est l'extrême droite qui est dans la rue, le gouvernement vote des lois qui les rassurent. Mais... Donc, ouais. Dès que c'est un peuple qui est un peu vraiment pour un vrai changement, ils s'en éloignent.
Oui, puis ils envoient nos amis les policiers, hein, qui sont là pour nous protéger des voleurs et des méchants. Et juste, voilà, ils peuvent fracasser le crâne de gens comme ça. Donc, ils avaient fracassé le crâne de ce jeune lors d'une irruption dans un lycée qui avait été occupé par plusieurs manifestants, dont des étrangers en situation irrégulière qui travaillaient au Black. Enfin, il y avait énormément de revendications, il y avait une convergence des luttes qui a été réprimée dans le sang, ben, à la bonne franquette, hein, j'ai envie de dire. C'est un peu l'école Jules Ferry et ce genre de répression-là, quand on massacre des gens parce qu'ils revendiquent leurs droits de parole, tout simplement. Par contre, là, il y a eu vraiment un écho international assez fort. L'Italie, en tant que pays, a été condamnée plusieurs fois, d'ailleurs, par rapport à ça.
Je crois qu'elle a été condamnée à la Cour européenne des droits de l'homme, justement pour violence, le fait qu'ils avaient caché la violence policière, voire fait des faux, et que c'était des faux grossiers, quoi. C'est-à-dire que devant la Cour européenne des droits de l'homme, les gens
disaient
soit la bonne date, soit la bonne personne. Enfin, c'était ridicule.
On n'arrive pas à retracer les criminels, hein, parce que ce sont des flics criminels, et souvent ça va de pair, les assassins même. Et donc ça rejoint en fait une autre des revendications de la manif, qui n'était pas dédiée qu'au jeune Aldro Aldi, dont on avait cassé la cage thoracique, mais ça rejoignait toute personne ayant subi des violences policières, y compris d'autres anonymes. Parmi les revendications, en fait, il y avait l'idée d'immatriculer comment ça s'appelle, les keufs, quoi, les flics, ouais.
Leur mettre un numéro
d'identification, un numéro d'immatriculation pour savoir qui fait quoi et réussir à retracer plus ou moins les gens. Voilà. Quoi d'autre? Est-ce que je suis dans les temps ou est-ce qu'il faut que j'abrège?
Non, t'es dans les temps. Okay. Mais par contre, tu nous avais parlé de la situation économique aussi en Italie qui t'avait
un truc assez choquant et que je ne m'attendais pas à voir dans nos pays occidentaux super développés, super démocratiques et où tout va bien. J'ai vu de mes propres yeux de plus en plus de personnes âgées. Alors, pas des Roms, pas des punks à chiens, pas les gens qu'on nous apprend à reconnaître comme ça à la télé. Non, c'est des personnes âgées dans la ville où j'étais, qui sont probablement nées enfin des autochtones quoi, des indigènes, des autochtones même on dit, des personnes âgées qui fouillaient dans les poubelles, peu importe d'ailleurs dans tous les bidons à objets, nourriture, et qui cherchaient comme ça en plein jour, ben de quoi passer la journée quoi, que ce soit matériel ou alimentaire. Et enfin, je me dis que c'est probablement des gens du coin, du pays, quoi, qui ont vécu dans la ville, dont ils fouillent les poubelles aujourd'hui. Ils ont donné leur vie, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont cotisé, et en gros, ils touchent aux alentours de 200 euros de retraite. Et là-dessus, tu dois payer le gaz, tu dois aider tes enfants et tes petits-enfants qui sont chez toi, parce qu'il y a pas de boulot. Voilà, donc une situation économique qui rappelle beaucoup des images qu'on a vues aussi en Grèce il n'y a pas très longtemps. Et en gros, soyons vigilants parce que hier la Grèce, aujourd'hui l'Italie, dans quelques heures la France à l'échelle de chronologique. Et arrêtez de penser que ça n'arrive qu'ailleurs en fait. C'était ça aussi qui m'intéressait de vous apporter comme témoignage, c'est que c'est dans un autre pays, certes, mais ça ne veut rien dire du tout, parce que c'est les mêmes gens abrutis par la télévision qu'on va aller chercher en période électorale pour leur dire « Moi, je suis le représentant politique qui se tape le plus de jolies jeunes filles, donc si vous voulez avoir une vie comme la mienne, venez voter pour moi. » Un peu ce qui se passe avec Hollande, avec l'actrice, là. Les femmes politiques, en revanche, elles, on s'intéresse plus à leur passé. Donc, maintenant, les femmes qui entrent en politique en Italie, il faut qu'elles aient fait de la télé ou un porno. Il n'y a pas de mal à faire de la télé ou du porno, mais juste comme bagage politique, c'est pas évident. Mais c'est ce qui est légitime. Ouais, ce qui est légitime, leur entrée en politique et tu deviens député, quoi, comme ça, par magie.
Oui, ça avait un nom d'ailleurs, non, aussi ce. Parce que ça a été amené aussi par Berlusconi, non, à la télé.
Tout oui, oui, oui. Alors,
c'était comment les. Il n'y a pas un nom.
Les Vélines.
Vélina. Les Vélines. Alors, celle-là, non, c'est autre chose encore.
Ah, on parlera de ça une autre fois.
Elles, en général, elles épousent des footballeurs.
Ok, d'accord.
Elles sont là pour épouser les footballeurs, celles-là. C'est des espèces de. Un peu comme les gaffettes à la télé. Et d'ailleurs, l'actuel nouveau Premier ministre, on ne sait pas combien de temps il restera là, Matteo Renzi, qui n'a pas été élu. Donc ça fait plusieurs fois hein, qu'une personne non élue arrive à diriger un pays quand même. Donc posez-vous des questions, ceux qui sont en train de prendre leur carte électorale là, pour aller voter je ne sais pas quoi ou je ne sais pas où.
Après tout, on appelle ça l'Union Européenne. Hein,
tout
sais.
À fait, ouais. Donc on est bien d'accord que voter ça sert strictement à rien, que le meilleur bulletin de vote c'est le pavé quand même.
Mm-hmm. Ouais. C'est très efficace.
Enfin, moi c'est un pavé léopard un peu, je dessine un peu des taches de léopard juste pour avoir le swag d'Abidjan. Donc l'actuel Premier ministre en Italie c'est quand même un gars qui avait participé à l'équivalent du Big Deal par exemple il y a pas très longtemps. Ouais. Donc il a ce bagage culturel là lui aussi. Donc un jour, je sais pas, un jour tu fais l'île de je sais pas quoi là, de la tentation, le lendemain t'es à Matignon, comme ça. J'ai gagné au Big Deal, j'ai gagné juste prix, puis après t'es à Matignon. Voilà, c'est surtout cette culture-là de télévision, de soupe assez dégueulasse à base de femmes à poils, machin et tout, qu'on sert aux gens, qu'on va chercher en période électorale et qu'on va re-abandonner une fois qu'on a été élu. En gros, voilà. Donc, vive l'autogestion, hein, et je pense qu'on est quand même arrivé à un âge de l'humanité où il serait juste et bon de s'autogérer.
Oh, quelle classe!
Voilà.
Merci, Louis.
On en est capable quand même. Faisons-nous confiance.
Ouais.
Voilà. Vive l'anarchie.
Bon, bah. Musique?
Allez. Ouais. Et la liberté.
It's up to you. Psych.
Think about you. Il y avait des petits oiseaux, c'était bien.
Oui, il y avait des petits oiseaux à la fin.
Les oiseaux. Il a coupé. Non, c'est pas grave.
Oui, vous êtes sur Radio Canu 102.2 ou radiocanu.org. C'est la causerie, on est dimanche soir. Et on vient d'écouter le groupe Sean. Ça s'écrit S-S-I-O-N. Avec le titre Psychic. Et j'aime beaucoup ce groupe parce qu'il présente toujours des clips avec plein de gens. Qui joue sur les genres, on est en plein dedans, c'est l'actualité, et des hommes avec des talons, enfin on sait pas, voilà, et j'aimerais voir plus de gens comme ça dans la rue, et de jour, pas que de nuit.
Ouais, c'est bien, comme l'idée, j'adore.
Voilà.
Bon, je m'entends toujours quatre fois, donc vous me pardonnerez. Je vais donc faire la chronique sans casque, parce que je n'y arriverai pas. Donc si je crie un peu, non mais c'est tous les casques, donc pardon, excusez-nous amis auditeurs. Hop, c'est parti. Voilà. Et c'était donc à moi, et je voulais vous parler d'un truc dont on parle pas mal en ce moment, c'est les bitcoins ou bitcoin. Vous, ça marche? C'est dégueulasse, moi ça marche pas. Voilà. Ah oui, un vrai casque, pardon. Voilà. Ah, ça va mieux. Donc du coup, je disais, je voulais vous parler des bitcoins ou des bitcoins, et c'est comme on dit en France. Alors, c'est un petit truc assez marrant. C'est une monnaie totalement virtuelle qui a été créée en 2009 à l'initiative d'un geek qui avait un pseudo qui est Satoshi Nakamoto ou Nakaroto. J'ai trouvé les deux orthographes, donc voilà. Et en fait, cette personne, elle se présente comme le geek ultime. J'aime beaucoup la notion de geek ultime. Et elle a créé cette monnaie pour pouvoir échanger des valeurs au sein des jeux de rôle et de s'inspirer de ce qui se faisait dans les jeux de rôle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les jeux de rôle en ligne, on a à l'intérieur des monnaies qui existent, qui s'appellent généralement c'est coin, hein, tout simplement parce que c'est américain et que ça fait bien. Et en fait ces monnaies ne valent rien, c'est-à-dire qu'elles n'ont de valeur que dans le jeu et elles servent à s'échanger des objets, des faveurs, enfin tout ce que vous voulez, mais elles sont uniquement valables dans le virtuel et dans le jeu. Et là où ça devient intéressant, c'est que le Bitcoin, qui est au départ inspiré de ça, il est sorti dans la vie, in real life, comme on dit, dans la vraie vie. Et il est allé se balader comme en devenant une vraie monnaie. Alors, au départ, le Bitcoin, l'idée, c'est de dire on crée une monnaie qui est en pair-to-pair, c'est-à-dire que c'est d'échange direct à échange direct. Et elle n'est régie par aucun système de contrôle, elle est autogérée et elle est offerte à tous les utilisateurs qui accepte la charte des bitcoins. Alors ça paraît vachement bien, ça fait super révolutionnaire sur le papier, parce que comme ça on a l'impression qu'on a créé une sorte de monnaie qui permet de troquer, comme on en parlait la semaine dernière, ou voilà. Sauf qu'en fait ça n'a pas duré très très longtemps, cette vision très idyllique du bitcoin, et assez rapidement des petites startups sont arrivées en disant nous on va centraliser tout ça. Et il y en a 4 ou 5 dans le monde qui se sont mis à centraliser les échanges de bitcoin. Alors pourquoi ? Parce que comme toute monnaie, il faut qu'il y ait trace de création de monnaie pour qu'elle existe. Quand vous avez un billet dans les mains, c'est qu'à un moment donné, on l'a imprimé. Et bien pour qu'un bitcoin existe, il faut que vous ayez une trace du bitcoin. Vous voyez un petit peu le truc ? Non, bon, je vais vous donner l'exemple. Par exemple, le bitcoin, ça se présente comme ça. BI 632212. Ça, c'est un bitcoin, c'est-à-dire que vous avez créé le BI 632212. Et il a été créé tel jour à telle heure par telle personne, pseudonyme ou réel. Et il a une durée de vie et une traçabilité tant qu'il existe. À partir du moment où vous le détruisez, il n'y a que la personne qui l'a créé qui peut le détruire.
D'accord.
Donc en gros, c'est une monnaie qui devient comme n'importe quelle autre monnaie qui repose sur la confiance qu'on lui donne. C'est-à-dire que c'est comme un billet de banque, hein, on vous dit ça vaut 20 euros, vous ne vous dites pas celui-là il vaut 22, vous dites il vaut 20 euros. Le bitcoin c'est pareil, on marque dessus c'est 12, et il vaut 12. Voilà, et vous devez faire confiance à la valeur du bitcoin. Mais comme c'est toujours une monnaie, y a des petits malins qui se sont dit ce serait vachement bien si on pouvait commencer à spéculer. Parce que c'est bien de spéculer sur les monnaies, après tout, il n'y a pas de raison de s'arrêter. On spécule sur l'euro, sur le dollar, sur le yen, on a spéculé sur le bitcoin. Et le bitcoin, il est passé de 1 bitcoin vaut 0,1 dollar à 1 bitcoin vaut 1000 dollars. Donc vous imaginez la bulle spéculative qu'il y a derrière. C'est magique.
Ça fait rêver.
Alors, les journaux, ça les fait rire parce qu'ils racontent l'histoire de ce gars qui avait acheté une pizza avec des bitcoins et que bah, s'il l'avait acheté aujourd'hui, sa pizza, elle vaudrait 16 millions de dollars. Oh, qu'est-ce que c'est drôle. Bah, sauf que ça veut juste dire qu'à un moment donné, on a donné une valeur à quelque chose mais qui est complètement surréaliste. C'est-à-dire que d'un seul coup, on s'est mis à décider que cette monnaie-là valait 1000 fois la monnaie de référence mondiale. C'est ce que ça veut dire quand on dit qu'un bitcoin vaut 1000 dollars. Ouais,
donc c'est juste une monnaie comme ça.
Ouais, c'est juste hallucinant.
Est-ce qu'on peut payer en poils? J'en ai beaucoup, moi. J'essaie d'instaurer mais ça, mais ça
faut,
marche
il
pas.
Il faut instaurer le
poil. Moi, j'y crois, donc j'y donne la valeur.
Le poil coin, tu peux dire. Voilà. Et en fait, le truc qui est sympa dans l'histoire, c'est que bah, jusque-là, tout se passait à peu près bien parce qu'il y avait donc ces sociétés qui régulaient. Donc les sociétés, qui enregistraient. Leur but, c'était d'enregistrer les spéculations et de créer les bitcoins. Donc en fait, bah, elle faisait le rôle un petit peu de banque centrale décentralisée. Vous voyez un petit peu le truc, elle créait une monnaie un petit peu de façon virtuelle et puis disait, vous inquiétez pas, on a les meilleurs réseaux, tout est sécurisé, il n'y a aucun problème, les bitcoins ça ne peut pas être détruit, c'est la monnaie de l'avenir, en plus c'est la monnaie du peuple et tout va bien. Sauf qu'assez vite, et bah, avec la spéculation, on s'est rendu compte que c'était de moins en moins la monnaie du peuple et de plus en plus la monnaie de la mafia et que accessoirement, parce que ça a servi à blanchir pas mal de fric, et qu'accessoirement, à côté de ça, il y a une petite start-up qui s'est fait pirater. Et la start-up en question s'appelle NetGox. Elle est au Japon, c'est deux Français qui sont à la tête de cette start-up, et ils ont monté leur start-up là-bas pour faire transiter du Bitcoin. Sauf qu'ils viennent de se faire pirater la modique somme de 650 millions de dollars. Soit 7% des Bitcoins qui circulent dans le monde. Ça veut dire qu'en gros, bah, c'est comme si quelqu'un était venu dans une banque et avait dit, je vous emprunte 7% de toute la monnaie qui existe, et puis je me casse avec et je vous emmerde. Voilà. Et c'est ce qui vient de leur arriver. Ça s'appelle un braquage sans armes ni violence, donc moi je suis plutôt fan de ce genre de braquage, je trouve ça plutôt cool. Je
me dis qu'après, pour le partager surtout.
Oui, voilà, partage, après faisant quelque chose d'utile de ces bitcoins que t'as volé, cher ami. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que personne ne veut admettre qu'il y a eu piratage. On dit non, il y a eu un petit problème technique, ou peut-être que... Voilà. Mais sauf qu'en fait, en réalité, même les autorités japonaises ont dit c'est un piratage. Et le problème que ça pose, c'est que d'un seul coup, la monnaie qui n'est que virtuelle et qui n'existe que sur Internet, le Bitcoin devient violable, comme n'importe quelle autre monnaie. On peut la transformer, on peut la truquer, on peut la voler, et donc on peut donc gruger. Et ça, c'était l'inverse de ce que nous annonçaient les bitcoins, en disant, nous, il n'y a pas de problème, on ne pourra jamais nous avoir, parce que nous, on est des super geeks et on a tout crypté bien comme il faut et que tout va bien se passer, et ça n'a pas super bien marché au final.
Ça se trouve même, c'est un auto-braquage.
Mais c'est possible en plus, parce qu'il y a une piste comme ça qui dit que peut-être que c'est une mise en faillite volontaire. Et alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que, comme d'habitude avec les banques, parce qu'on va dire que ces gens-là faisaient un petit peu le rôle d'une banque hein, au final, et bien comme d'hab, ils disent, ah bah c'est pas ma faute, moi je me mets en faillite. Donc ils demandent aujourd'hui à l'État japonais de couvrir les pertes et de dire « Ah ben, on est vraiment désolé pour les utilisateurs qui viennent de perdre 650 millions de dollars, mais nous, personnellement, on n'y est pour rien et on ne peut rien faire. » Donc voilà. Donc c'est la semaine dernière, ils se sont mis en faillite, ils ont dit « Désolé, pardon, et on va manger des sushis au restaurant d'à côté. » C'est quand même juste hallucinant. Et ça, ce qui est drôle, c'est que dans la presse, personne ne veut dire qu'au final, encore une fois, on va demander à l'argent public, à l'argent de tout le monde et aux impôts de tout le monde d'aller renflouer la spéculation. Parce que c'est ça qui est derrière. Et encore une fois, on nous dit gentiment, ouais, mais c'est vachement bien les bitcoins parce que c'est une monnaie virtuelle pair-to-pair et c'est super méga giga bien d'être pair-to-pair. Alors, pair-to-pair, on peut traduire ça de main à la main. Donc voilà, je pense que n'importe quelle monnaie est donc pair-to-pair, sauf qu'elle passe pas par un réseau informatique. Hein, mais voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on donne l'impression que c'est super giga, mais en fait, c'est juste de l'argent, quoi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les possesseurs de bitcoin, ils ont un peu porté plainte quand même. Bah ouais, parce qu'ils ont quand même perdu beaucoup d'argent. Et ils viennent de se rendre compte qu'en fait, leur monnaie, bah, elle n'est pas reconnue au niveau international. Oh. C'est-à-dire qu'elle est acceptée en tant que monnaie dans plein d'endroits. Mmh. Il y a même Amazon aux États-Unis qui acceptait d'être payé en bitcoin. Mais en fait, au niveau international, les juges disent, ben ouais, mais c'est comme si vous aviez créé une monnaie à base de je sais pas moi, de morceaux
comme
de papier.
La monnaie du Monopoly, par
voilà,
exemple.
Voilà, et elle dit, c'est vous qui croyez en cette monnaie-là, mais elle n'a pas de valeur internationale. Il y a des gens qui spéculent sur quelque chose qui n'existe pas, quand même, il faut être conscient de ça. Donc ils ont un mal fou pour porter plainte. Parce que du coup, bah, à l'OMC ou partout, on leur dit « Ah bah désolé, mais moi le Bitcoin, je ne sais pas ce que c'est, ça existe comment ah bah c'est une monnaie que vous avez créée vous, bah c'est un peu comme si vous aviez une monnaie dans un pays imaginaire que vous avez créé vous un jour, et démerdez-vous avec votre président. » Mais il n'y a pas de président du coup. Hein. Donc c'est assez drôle, enfin... On nous a vendu ça comme une monnaie du peuple, encore une fois, comme un moyen de sortir de la spéculation et du capitalisme, et on se rend compte qu'au final, on retombe dans les mêmes travers et que ça ne reste qu'une monnaie. Donc, eh ben, je voulais juste rebondir là-dessus et dire que la monnaie, ça n'a que la valeur que l'on veut lui donner. Et ça n'est adossé à que dalle. Donc, à un moment donné, si on croit en la monnaie, c'est juste qu'on y croit. C'est une croyance, la monnaie, ça repose là-dessus, ni plus ni moins. Et que penser que l'on va changer le capitalisme en changeant la monnaie, c'est une illusion. Parce que le capitalisme, c'est un système. C'est pas avec quoi vous échangez les choses qui fait le capitalisme, c'est la façon dont les choses sont réparties. Donc si les gens croient qu'avec une monnaie, ils vont changer le système, c'est juste une illusion. Et le Bitcoin est un excellent exemple de cette illusion-là. Parce que des gens qui vous disaient « c'est une monnaie qui n'est régulée par personne, sauf le marché hein, », au final, on s'en rend compte, et qui est donc ultra-capitaliste au passage, et cette monnaie-là, elle permet au peuple d'être libre, et ben on se rend compte qu'au final, non, la monnaie, elle a encore mis le peuple face à l'idée qu'il va falloir rembourser la spéculation de quelques couillons qui avaient envie de faire monter une monnaie. Et c'est encore une fois aux poches des Japonais, en l'occurrence, qu'on va demander d'aller sortir du fric pour sauver cette pseudo-banque. C'est génial, ils avaient déjà Fukushima, voilà, ils ont le Bitcoin, maintenant ils sont contents. D'ailleurs, au Japon, ça grogne beaucoup, hein. Enfin, on a du mal à le voir, mais ils n'ont pas trop envie de payer. Hein. Mais finalement, ils disent, ça va, là, la connerie, on ne va pas la payer deux fois, c'est bon. Et je voulais juste dire ça, c'est que ce qui, moi, m'intéresse dans cette idée-là, cette histoire-là, c'est pas que des gens aient perdu de l'argent ou qu'on ait créé une monnaie. On en crée tous les jours des monnaies et voilà, ça, c'est pas le problème. C'est qu'encore une fois, on a fait croire aux gens qu'il suffisait de cliquer sur un ordinateur, sur un truc qui soit, disons, un petit peu plus éthique et de se coller sur un truc un petit peu mieux pour que le système capitaliste devienne merveilleusement beau. Sauf qu'en fait, bah non. À un moment donné, il va falloir vous regarder un petit peu en face et vous dire que pour sortir du capitalisme, il va falloir repenser complètement votre façon de vivre et votre façon de faire. Qu'il ne suffira pas de dire que j'ai cliqué sur la bannière qui dit « Ici, mon argent, il est vachement propre et il est vachement beau » pour vous dire que vous avez fait une bonne action. Regardez d'abord ce qu'il y a derrière avant de cliquer sur la bannière. Et que de toute manière, sans révolution locale et mondiale, on ne changera pas les choses derrière un ordinateur. Voilà.
Absolument. Tout ce que moi, j'applaudis. Et puis voilà, puis on a marre. Et puis c'est juste, ça fonctionne parce qu'on fait ce qu'on. Enfin, oui, on fait comme on nous dit.
C'est ça.
On nous dit, on fait. C'est pour ça que ça marche.
Il n'y a pas, il y a aucune réflexion derrière tout ça. Et c'est, moi, j'ai trouvé ça super grave. Et d'ailleurs, je vous l'invite à chercher, c'est qu'il y a trois versions de comment le Bitcoin a été créé, dont une qui ressemble presque à un conte de fées qui est magnifique. Un matin, un mec s'est levé, il s'est dit, il faut que je crée la monnaie du futur.
La monnaie du futur.
c'est juste ridicule.
La monnaie qui va redresser l'économie mondiale.
Ouais, mais c'est ça, ils se disent, ils vont retourner un système en utilisant les mêmes outils
mais oui,
que le système.
Parce qu'ils sont habillés en gentil.
Ah oui, c'est ça, en fait, c'est l'habit qui fait que... Ouais.
Donc, le moine. Pour dire, alors là, en plus c'est un moine.
Mais juste quand même, pour le dire, avant que tu lances la musique, moi je veux juste dire quelque chose auquel je crois fondamentalement, c'est qu'il n'y a pas de révolution sans qu'il y ait des gens dans la rue, ça c'est un fait, et que le Bitcoin et toutes ces conneries-là, ça n'est que l'envie que l'on vous met sous le nez pour vous faire croire que vous consommez mieux, et qu'avant de consommer mieux, pensez déjà à savoir pourquoi vous consommez. Voilà.
Neurones dans le cerveau qui disparaissent de jour en jour, dans les petits bois, les petits discours, des petits rois dans les basses-cours, des petits qui se cachent, des petits qu'on cache, des petits qu'on joue à pile aux faces, des petits qui vont grossir les ventres, des petits caissiers dans les carrefours, des petits problèmes de récession, des petits ministres dans les prisons, des petits pour payer ton loyer, des petits pour la communauté. Taper, taper sur les claviers des pompes funèbres au cours d'école. Faut voir comme les petits sont fringués. Y'a de la griffe sur les guiboles, des petits insectes sur les fleurs, des petits bugs dans le computer, des petits pour l'eau, des petits pour l'air, des petits pour pourrir l'atmosphère. Marcher, marcher, les petits pinsons, les petits rois, les petits cons, des petits pour vendre qui on est à la crier sur les marchés, ouais. Des petits sous, qui veut des petits sous? Des petits sous, on veut des petits sous, allez. Des petits sous, qui veut des petits sous? Moi, moi, des petits sous, on veut des petits sous. Dans les rizières, les petits chinois, la planète à la gueule de bois, dans les usines. Sur les machines, tandis que le peuple des petits sœurs qui feront des petits, comme la connerie qui se multiplie, ton petit chat en fin de mois. Non, lui, il se multiplie pas, comme le cynisme dans les sourires, des petits tortues dans les parties, des petits problèmes de récession, des petits ministres dans les prisons, des petits qui se cachent, des petits qu'on cache, des petits qu'on joue à pile ou face, des petits qui vont grossir les gros, qui rendent les petits toujours plus petits, pour que le petit n'ait d'autre choix, pauvre de lui, que de faire des petits, oui, oui, des petits sous, des petits sous, qui veut des petits sous, des petits sous.
Des petits sous, des petits sous, toujours des petits sous. C'était Damien XVI dans La Causerie sur Radio Canus en 2-2. Et nous, vous êtes, enfin, on est toujours en direct, hein, et la preuve, il est 22h40. Et Jean-Yves, tu vas nous passer quelque chose que tu es allé faire jeudi dernier, je crois, le 27.
Ouais, c'est ça, je vais pas en parler trop avant, et on va lancer ça. En fait, c'est un petit doc sonore de 15 minutes que j'ai fait à l'occasion de la manif qu'il y a eu, en fait, contre la réforme de l'UNEDIC, du régime des intermittents et, par ricochet, du régime
chômage.
Merci. Et donc voilà, ben, je vous passe ça et puis on peut peut-être en parler un petit peu après.
Il n'y a que ça à faire, que ça à faire. Pas de liberté, mais sans fidélité. Sans fraternité, fraternité. La démocratie de la bourgeoisie, c'est celle du mépris,
celle du mépris. Donc là, on est devant le MEDEF de Lyon. Donc les propositions du MEDEF, elles sont sympas. Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, il l'a rappelé hier. Donc la première des attaques qui devraient tous nous faire bondir, c'est la suppression pure et simple des annexes 8 et 10 des intermittents du spectacle. Ils disent que du coup ça coûte trop cher, que ce serait à l'État de prendre en charge le financement et que c'est pas que c'est plus à l'UNEDIC de prendre en charge ce régime. Ce qui est effectivement inadmissible et c'est pour ça aussi qu'on est rassemblés là. Mais au-delà des attaques sur les intermittents du spectacle, c'est une attaque en règle contre les droits de tous les chômeurs qui est en train de se mettre en place en ce moment. On a très très peu de temps pour réagir puisque les négociations finissent fin mars. Ce qui fait qu'on a à peu près un mois pour se mobiliser et pour être beaucoup plus dans la rue, pour être beaucoup plus organisé dans notre structure pour empêcher complètement ce qui est en train de se passer. Pour vous expliquer un petit peu, donc ils veulent faire basculer le régime des intermittents du spectacle dans le régime général. Au début, il y avait une attaque uniquement sur les techniciens. Maintenant, c'est aussi sur les artistes. Et donc, le régime général, ils veulent aussi le réformer. Aujourd'hui, la règle de l'indemnisation du chômage, c'est un jour travaillé égale un jour indemnisé, pour ceux qui... Et la durée maximum, c'est 24 mois. On peut avoir travaillé 20 ans, rien à foutre, on a cotisé, c'est nos droits, bah, on est indemnisé 24 mois. Que cet argent, la cotisation, nos cotisations en fait, nos droits du chômage, c'est notre salaire. C'est ce qu'on appelle le salaire différé. C'est pas de l'aumône, c'est pas de la charité qu'on nous donne, c'est pas pour faire plaisir, c'est nos droits, c'est notre salaire. Les propositions du MEDEF, c'est de passer à un jour travaillé égale 0,8 jours indemnisés. Et l'autre proposition, c'est de passer de 24 mois à 18 mois. Mais moi, je me pose juste la question suivante. Mais qui sont les fraudeurs? Qui sont les profiteurs dans ce pays? Quand on voit qu'en 2008, il y a eu 380 milliards d'euros qui a été mis sur la table pour sauver les banques, que l'année dernière, en janvier 2013, le gouvernement soi-disant socialiste a pondu, a contresigné à l'Assemblée nationale l'accord national interprofessionnel qui a été signé en janvier dernier et qui augmente la flexibilité, qui permet encore plus de licenciements, qui allonge les fils de Pôle emploi. Et que là, on va nous sortir un pacte de responsabilité qui va permettre aux patrons une exonération de cotisation de 30 milliards d'euros. Et on vient nous parler du déficit de l'UNEDIC, mais c'est eux qui créent le déficit de l'UNEDIC. Les profiteurs, les fraudeurs dans ce pays, c'est eux, c'est le MEDEF.
Le patronat.
Un truc qui est vraiment important et que je pense qu'il faut vraiment qu'on ait en tête, c'est que nos luttes, elles doivent pas être séparées. Aujourd'hui, j'entends le Parti Socialiste dire « Non, on veut pas toucher, nous, au statut des intermittents. S'il doit être réformé, ça doit être pris dans un moment un peu moins de tension, un peu moins de polémique. Il faudrait en parler à part de la convention UNEDIC. » Donc en gros, le Parti Socialiste, il n'est pas pour toucher le statut des intermittents, mais il est pour casser les chômeurs. Il est pour casser les plus précaires, les plus faibles d'entre nous. Donc ça veut dire qu'en gros, si on sort de cette négociation sans qu'il touche le statut des intermittents, ce sera une sorte de victoire en demi-teinte pour nous. Parce qu'en gros, on pourra crier victoire, rentrer chez nous, mais les plus précaires, les plus faibles, ils vont être stigmatisés, ils vont encore perdre leurs droits. Donc vraiment, ce que je pense qu'il faut qu'on ait en tête, en tout cas, c'est vraiment de ne pas séparer nos luttes. C'est vraiment d'être solidaire et de se dire qu'aujourd'hui, les droits de l'assurance chômage, ça concerne pas que les chômeurs, ça concerne pas que les intermittents, ça concerne tous les salariés. C'est comme la retraite. La retraite, on était des milliers dans la rue. Alors pourquoi est-ce que du coup on continue pas pour l'assurance chômage? Je viens dans une période de crise terrible, il y a plus de 10% de chômage actuellement et c'est pas fait pour du tout pour diminuer. Il faut qu'on continue, qu'on mobilise autour de nous largement. Il y a des entreprises actuellement qui sont occupées, il y a des licenciements partout. Il ne faut absolument pas sectoriser nos luttes. Il ne faut absolument pas se diviser. Ça, c'est la logique du patronat, c'est nous diviser. Donc il faut qu'on soit tous ensemble dans la lutte, tous ensemble. Voilà. Il y a des structures qui existent. Par exemple, je prends un exemple à Paris, il y a la coordination des intermittents et précaires qui rassemble des chômeurs, RSA, des précaires en gros qui tapent dans des petits boulots et des intermittents. Ils ont réussi à faire ce pont pour justement arrêter d'être chacun dans notre petit secteur. À Lyon, ça n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'on ne l'organiserait pas? En tout cas, un collectif ou un comité de mobilisation, une sorte d'organisation à la base, pour poser nos revendications. Les revendications, elles existent, hein, on ne va pas les inventer dans nos têtes. Hein. Par exemple, la CGT Spectacle, ou en tout cas le Coordination des Intermittents des Précaires à Paris, disent il ne faut plus qu'il y ait de séparation entre les techniciens et les intermittents. Il faut qu'il y ait un annexe unique. Il y a une autre revendication phare, c'est la date anniversaire pour les intermittents du spectacle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de période glissante comme ça, où on ne sait jamais à quel moment on va pouvoir renouveler le statut, mais revenir à une date d'anniversaire comme en 2003 sur 12 mois pour pouvoir justement avoir nos droits en temps et en heure, quoi, et qu'on sache où on en est. Il faut qu'on s'approprie nos luttes et qu'on se coordonne, nous, quoi. Qu'on n'attende pas des autres de le faire parce que actuellement il n'y a personne qui le fait, quoi. Donc du coup, c'est à nous de prendre en charge tout ça.
Le problème avec cet accord, c'est qu'ils veulent nous diviser entre nous. Alors il y a les chômeurs de telle catégorie, de telle autre catégorie. Il y a ceux qui vont être impactés, pas impactés. Sauf que dans toutes les familles, maintenant, il y a un chômeur. Il y a un mec au RSA. Il y a un mec à la rue. Et à un moment, il faut dire, ça suffit, ça s'arrête là. Et c'est pas parce que c'est comme ça que ça changera pas. Par rapport au MEDEF, c'est eux qui sont responsables en même temps des licenciements. C'est eux qui ferment des usines, c'est eux qui approvisionnent le chômage. Et au jour d'aujourd'hui, il ne faudrait pas payer les chômeurs. Il faut qu'ils payent et qu'ils payent plein but. Le jour où le chômage leur coûtera plus cher que les salariés, là, il y aura le retour au plein emploi en France. Là, oui. Avant, les trains des salariés, ils avaient 1 heure et demie de pause pour manger. Ils avaient le temps d'échanger, de se syndiquer, de se mobiliser, de confronter leurs expériences. Maintenant, 22 minutes chrono. On est en train de régresser, de tous se laisser écraser. Quand vous êtes au RSA, si vous avez un gamin qui fait un stage, vous ne le percevez plus, votre RSA. Parce que votre quotient, il est dépassé. Si vous avez une femme qui travaille avec vous, vous ne le touchez plus. Ça fait qu'après, vous vous retrouvez en tant que père de famille, allez demander 10 euros à votre gamin pour qu'il vous paye vos clopes et votre café et peut-être votre journal si vous avez encore les moyens. Sinon, vous le lisez gratuit. Pour pas s'attaquer à tous les chômeurs. Ils vont nous la faire à l'envers. On a l'habitude de ces menteurs. Hein. Là, ils prennent leur revanche. Hein, parce qu'ils s'estiment qu'ils ont été spoliés au moment de la libération. Sauf qu'au moment de la libération, c'était tous des collabos. C'est eux qui font cette misère dans le monde. Nous, on l'a subi, malheureusement. Il y en a qui se redressent, il y en a qui se mobilisent, il y en a qui se bougent. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a plein de gens qui ont plein de choses à dire, mais qui restent dans leur coin, qui croient que c'est bon à dire qu'à un comptoir de bar ou n'importe où. Non, la rue, elle nous appartient. L'espace public, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est à nous tous. Et c'est nous qui faisons ce que l'on veut dedans. Et c'est nous qui allons poser nos lois. Donc si on prend leur logique, soi-disant, un jour travailler, un jour indemnisé, il y a des mecs, ils ont bossé 30 ans dans une entreprise. Mais ils n'ont pas pour autant de droit à 30 ans de chômage. Et là, tout ça, là, la solidarité, il faut que ce ne soit pas un vain mot. Il faut que ça reprenne. Le pire, c'est que c'est des familles entières qui se retrouvent comme ça dans la précarité. Des quartiers entiers. Moi, j'habite une ville où plus de 42% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire que même votre voisin, s'il a envie, voudrait vous donner un morceau de pain, il ne peut même pas. Et ça, non, il faut faire payer le patronat, les actionnaires. Attendez, chaque année, ils font plus de 60% de hausse de bénéfices. Il faut qu'ils cassent. Je parle pas de les mettre à l'amende ou de les racketter, hein. Mais déjà, au moins, qu'ils ramènent déjà tout ce qu'ils font comme évasion fiscale. Si on récupérait tout ce qui est fait comme évasion fiscale, on comble tous les trous et la France a un niveau de vie, un PIB supérieur à la moyenne. En plus, ils touchent de l'argent, ces gens-là, du MEDEF, touchent de l'argent. Pendant qu'ils vous embauchent, ils touchent plus d'argent que vous, vous en touchez. Et vous la font à l'envers. Le coût du travail. Quel coût du travail? En France, c'est le pays où chaque ouvrier produit le plus que dans le monde entier. Il est le plus productif. Mais à quel prix? Au prix de dépression, des suicides dans les entreprises. Il faut un moment y arrêter. L'idéal, ce serait la grève générale, la paralysie de tout. Personne n'achète rien, rien que pendant un jour. Personne n'achète rien, personne n'allume quoi que ce soit, personne ne consomme. Et là, ils vont comprendre. Toutes ces richesses, c'est nous qui les produisons. Parce qu'ils peuvent se targuer d'être dans un yacht. Sauf que ce yacht, c'est des manards des chantiers navals. Il y a d'autres pays qui sont plus soumis à des restrictions de liberté, qui ont réussi à renverser la tendance, qui ont fait preuve de courage et d'abnégation, parfois au prix de leur vie. Maintenant, est-ce que quelqu'un est prêt? Je ne sais pas. On ne demande pas autant. On n'est pas encore dans une situation où on va falloir qu'on mette nos vies en jeu. Mais on va y aller tout doucement. Donc avant que ce moment il arrive et qu'on dise « Putain, on n'a rien vu venir, c'est trop tard maintenant, allez. » Non, il faut s'organiser, il faut se mobiliser. Et je vous dis qu'ils ne lâcheront rien. Alors nous aussi, on lâche rien. Ils nous ont assez depuis longtemps mis une paille dans la moelle épinière. C'est eux qui ont pompé nos énergies, notre esprit créatif, tout. Eux, ils ont quoi? Du papier, de la monnaie. Ils sont incapables même de cirer leur propre pompe. Ils auraient peur d'avoir une hernie en se baissant. Ils sont incapables de faire leur propre repas, ils mangent au restaurant. Ils sont capables de rien, si ce n'est de mettre les gens à la rue. Mais de qui se moque-t-on? Ils vont nous la faire à l'envers. Les précaires, maintenant, ça va être eux les profiteurs. Et ces putains de bourgeois nantis, qui sont milliardaires. Je vous dis, depuis la crise, ils font plus de 60% d'euros chaque année. On va aller où? Le MEDEF, il est pas con, hein. Du moins, il l'est, mais bon. Le concernant, il se croit intelligent. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais pas créer un méchant mouvement de chômeurs. Je vais pas m'attaquer à tout le monde. Je vais essayer de montrer que dans les chômeurs, il y a des garants, il y en a certains. Ils vont faire passer les mecs pour des nantis. J'espère que vous resterez tout le temps vigilants et que chaque précaire, il vous appartient, c'est un membre de votre famille. Chacun qui est dans la merde, c'est un membre de votre famille. Vous ne pouvez pas le laisser. On a un devoir envers la société, c'est de la rendre meilleure.
Arriver simplement à faire comprendre aussi que la culture, c'est l'éducation du peuple, que sans l'éducation du peuple, on ne peut rien faire, on n'avance pas, on ne réfléchit pas sur les autres revendications qui sont d'ordre plus importante, notamment, bah, effectivement, on s'attaque aux intermittents pour après s'attaquer aux chômeurs du régime général. C'est compliqué, il faut qu'on se relève pour les nouvelles générations, ne se rendent pas compte que c'est quelque chose qui peut se perdre très vite, comme plein de choses là en ce moment. De manière sociale. Aujourd'hui, il faut arriver à faire entendre et faire comprendre effectivement d'ici fin mars que on a la chance là, par exemple, en l'occurrence, d'avoir quand même un ministre de la Culture qui s'est quand même exprimé pour nous, et ça, il faut aussi le reconnaître et il faut aussi le revendiquer. Après, moi, je suis d'accord avec cette histoire, le MEDEF et le patronat, les choses qu'ont été données par le gouvernement, mais il faut aussi arrêter de se sectionner les uns les autres, de se mettre les uns face aux autres. On est tous dans le même pétrin. Mais même certains patrons de PME qui ont chi, et ouais, ils ont chi, il faut le reconnaître aussi. C'est pas forcément le méchant patron, le gentil chômeur ou le gentil. C'est pas du tout ça. On est tous dans la même merde. On essaie de réfléchir à des choses. Donc au lieu de se diviser, il faut arriver à se rassembler. Et moi je trouve hallucinant que même dans les manifestations générales, il n'y ait pas plus d'intermittents qui eux sont là avec leur banderole pour dire nous aussi. Si on a un problème, nous aussi on veut le revendiquer. Juste un dernier mot pour dire aussi que effectivement on parle de l'Europe. La France aujourd'hui doit se présenter aussi comme un modèle d'avancée sociale. Et on nous pousse là au nivellement par le bas. Donc c'est à nous de nous sortir le doigt et d'y aller et de faire comprendre aussi, même à l'Europe, qu'il y a des choses à pouvoir faire entendre dans les possibilités qu'on peut avoir, mais même au niveau de la culture. Et on nous fait comprendre que la culture, c'est un gouffre financier. Il y avait eu des chiffres qui étaient sortis, faisant comprendre que les chiffres de ce que pouvait ramener la culture étaient autant, si ce n'est plus, que l'automobile. Et ça, il faut arriver à le faire entendre, quoi.
Voilà, moi ce que je voudrais aussi, si les gens du MEDEF m'entendent, je vais leur dire que les chômeurs sont les intermittents sont des gros bosseurs quand même. Parce qu'il faut quand même qu'on répète, qu'on apprenne nos gammes. Et moi les 35 heures, je les aime tellement que je les fais deux fois dans la semaine. Voilà. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre à l'opinion. On travaille pas moins que les professions libérales ou les agriculteurs ou les gens comme ça. Faut arrêter de croire qu'on se la coule douce. Voilà. Ouais. On n'est pas chômeurs, on est bosseurs.
Et oui, retour à la causerie. C'est bien du son qu'on n'aurait pas envie d'entendre à la fin d'une manif. Que ben on n'est pas des chômeurs quand on est intermittent. Donc on. En fait, tout ce mélange de différentes paroles, c'était vraiment des gens. Alors, il y avait les deux premières personnes, je crois qu'elle s'appelait Anaïs, la femme, et le gars que je connaissais pas, qui eux étaient d'Orga, et par contre, les deux personnes qu'ils avaient entendues à la fin, eux étaient deux manifestants. Et c'est là où il y a quand même des questions à se poser. Après, moi, je suis pas là pour dire que la lutte, elle est pas du tout justifiée. Elle est réellement justifiée. Mais je crois réellement que c'est pas en se disant, moi, je travaille plus que le chômeur, qu'on va y arriver, quoi. parce que ça sert à rien, tu fais que le jeu du patronat. Et encore une fois, ça aussi ça me fait un peu mal au cœur d'entendre des gens qui sont dans la précarité dire ben les patrons ils sont pas tous méchants. Alors ok, ben je pense qu'à un moment donné il faut quand même qu'on pose des, enfin il y a des bases politiques, moi j'ai l'impression qu'il manque un petit peu, enfin je sais pas quel est votre sentiment.
Un petit retour à la lutte des classes, ça ferait pas de mal quoi.
Ah ouais,
c'est ce que tu essayes de dire, c'est ça?
Ben, moi, c'est... Non, mais
tu
oui,
serais pas un petit peu un rebelle toi?
Je ne sais pas, mais en tout cas le rendez-vous en tout cas il est aussi donné pour le 13 mars, j'espère qu'il y aura une journée d'action parce que moi je suis pas intermittent, je suis chômeur et que ça m'empêche pas de me sortir le doigt des fois même
du nez.
Du nez bien évidemment et parfois d'ailleurs, mais ça c'est pour la température. Alors bon, ça part dans tous les sens. Alors on va repartir sur un petit son là, ou à moins que
je voulais... Non, moi juste ça, c'est ce qui me fait réagir dans ce que t'as passé. Alors déjà c'est que je suis quand même content qu'il y ait eu cette action, je suis content qu'il y ait eu du monde parce que c'était pas gagné d'avance. Par contre c'est vrai qu'il va falloir bosser parce qu'il y a quand même encore des gens qui pensent que de dire je suis chômeur ou tu es chômeur, c'est infamant. Alors qu'en fait, si on est chômeur, si on est précaire, c'est juste qu'à un moment donné, il n'y a pas de répartition correcte des richesses. Point barre. C'est pas lié au
c'est
fait.
Pas qu'on faute, c'est pas une faute, ça n'est pas un péché. Voilà. On peut être précaire et avoir la classe. Hein.
Tout à fait.
Et être sexy.
Mais oui.
Tout va bien.
Bon, là, on dira pas oui, ça va lui faire plaisir. mais du coup, voilà, non, mais c'est juste dire que quand même, le poids de ce qu'on met dans les médias depuis des années, de ce qu'on rabâche, finit par, y compris, rentrer dans la tête de ceux qui sont quand même en lutte. Et c'est ça qui est fou. Ouais. C'est à se dire, il va y avoir du boulot quand même pour revenir à des bons fondamentaux, quoi. Voilà.
Ouais. La guerre des pauvres. Attention, soyons vigilants.
C'est ça.
La guerre
des pauvres. Et puis bon, de toute façon, on repart sur du son, mais qui sera bien meilleur. Enfin, je crois. Non, c'est pas ça du tout.
On recommence, en fait.
Vraiment rien de sérieux.
On refait l'émission.
On recommence.
Donc on remet un Bobby, c'est ça? Un Bobby sinon
rien.
Non,
ça va, c'est parti.
Nous sommes de ceux qu'on ne remarque pas, des fantômes, des transparents, des moyens. Nous sommes de ceux qui ne rentrent pas en ligne de compte. Nous sommes de ceux qu'on choisit par défaut. Nous sommes de ceux qui ont la peau terne, les traits tirés et le regard éteint, des visages pâles, des teints gris. Nous sommes de ceux qui se délavent de jour en jour. Nous sommes de ceux qui ont du mal à s'entendre penser. Nous sommes de ceux qui se maîtrisent difficilement. Nous sommes de ceux qui mettent mal à l'aise en public. Nous sommes de ceux qui dérapent dans les escaliers des bibliothèques. Nous sommes de ceux qui dansent de façon embarrassante. Nous sommes de ceux qui font l'amour en deux temps. Nous sommes de ceux qui s'y prennent à l'envers avec les autres. Nous sommes de ceux sur lesquels on parie jamais. Nous sommes de ceux qui savent plus raisonner de façon logique. Nous sommes de ceux qui ont tout fait comme il faut, mais qui arrivent pas à des ratés modernes, des semi-défaites, des victoires sans panache. Nous sommes de ceux qui tiennent pas la pression. Nous sommes de ceux qui se font balayer à répétition. Nous sommes de ceux qui se font assister, des baltringues, des éclopés, des faibles. Nous sommes de ceux qui prennent des trucs pour tenir le coup. Nous sommes de ceux qui savent pas dire non, qui connaissent pas la rébellion, qui soutiennent pas les regards. Nous sommes de ceux qui sont tabous. Et pourtant, nous sommes de ceux qui ne renoncent pas à des chiens enragés, des teigneux, des acharnés. Nous sommes de ceux qui comptent bien devenir capables de tout encaisser. Nous sommes de ceux qui établissent des stratégies dans l'obscurité pour reprendre la main, jouer selon leurs propres règles et forcer le destin. Nous sommes de ceux qui en ont assez de leur propre férocité. Des requins tigres en bout de course, des voyous qui demandent pardon, des apprentis repentis. Nous sommes de ceux qui veulent à tout prix tabasser leur part d'ombre et faire taire leur sale travers. Nous sommes de ceux qui cherchent à rejoindre les rangs des lions, des maquisards, des résistants, des sentiments. Nous sommes de ceux qui roulent pour eux et pour leur périmètre. Nous sommes de ceux qui pissent encore dans la douche mais qui espèrent réussir un jour à pisser droit. Nous sommes
sommes de ceux qui cherchent à désarmer la mort à coups de grenades lacrymo pour l'effrayer et la maintenir à distance. Nous sommes de ceux qui espèrent croiser la vie un soir au détour d'une avenue pour la séduire, la ramener et lui faire l'amour de façon brûlante. Nous sommes de ceux qui ont les yeux écarquillés en continu, des ahuris, des ébahis, qui guettent les comètes, les planètes et les épiphanies. Nous sommes de ceux qui cherchent à déterrer ce qui est enfoui, tout ce qui est caché et qui demandent qu'à être sorti. Nous sommes de ceux qui veulent rétablir le contact avec ceux qui sont partis trop tôt parce qu'ils savaient pas qu'il y avait une fin cachée. Nous sommes de ceux qui continueront à courir comme s'ils étaient poursuivis par les balles, qui desserreront jamais les mâchoires sauf pour sortir les crocs.
C'est pas nous les plus forts.
C'est vraiment l'équipe qui était la moins capable. On sera jamais rationnel avec ce type de lascar.
Faut composer avec.
On a adapté un jeu différent.
Il n'y a que les inconscients qui vous diront le contraire.
Ça va être irrationnel. Mais sans qu'on se casse la gueule.
Et on vient de s'écouter Fauve avec le titre de ceux.
Oui, c'est pas ça. Facile à dire. Hein. De ceux.
Ça faisait bizarre quand ça sortait de ma bouche. Et vous êtes toujours à la causerie. Et puis ben, on va rapidement se terminer par deux brefs. Je crois que vous en avez chacun une, Louli, Fabien.
Oui, alors tout à fait, absolument. Nos amis de Foutoir qu'on a reçus il n'y a pas très longtemps, qui vont sortir un nouveau numéro de Foutoir. Donc voilà,
un
bientôt.
Spécial.
Ouais. Un numéro spécial, tout à fait, très spécial, avec plein de trucs super intéressants, comme d'habitude. Et on salue nos amis de Foutoir.
De Foutoir, voilà. Bien évidemment.
C'est sur Guignol, d'ailleurs, le numéro spécial.
Oui, bah, c'est vrai.
C'est ça.
Sur Guignol.
C'est ça.
Moi, j'ai...
Sur l'Ukraine, tu veux...
Ouais, j'ai juste une brève, parce qu'il y a nos copains de l'International Anarchiste qui ont fait un excellent boulot et qui ont sorti un petit texte sur l'Ukraine et qui disent « Guerre à la guerre, pas de sang pour les nations ». Et voilà, je trouve que je vous invite à aller le lire, hein, il se trouve facilement. Mais il rappelle juste une base, c'est que bah, quand on vous demande de choisir un camp et puis de vous battre pour aller soit en Europe, soit sous la Russie, soit exploser votre pays en 10 000 parties parce que ça arrange bien les gens qui font passer du gaz, en général, c'est pas parce que c'est bien, c'est juste parce que vous êtes en train de servir les intérêts du capital et des bourgeois, comme dirait le monsieur dans le reportage qu'on a entendu tout à l'heure. Et ben honnêtement, voilà, et je trouve que c'est bien de rappeler de temps en temps que guerre à la guerre, alors je le redis, hein, c'est pas de guerre entre les peuples qu'une guerre entre les classes. Voilà.
Ben... Tout à fait d'accord. Voilà. Et moi, je vote Fabien. Allez.
Ah non, pas de vote.
J'ai envie de voter maintenant.
Il y a 5
vous
minutes,
m'avez rendu fou. Bon vote.
Bah, on va souhaiter alors une bonne semaine. Enfin, on va souhaiter une bonne semaine aux auditeurs, aux auditrices.
Et la semaine prochaine, on fera une émission qui sera un brin spécial. On ne sait pas encore ce qu'on fera parce que on va souffler la première bougie.
Oui.
C'est vrai. Ah, j'aimais bien. Refais-le nous, c'était bien.
C'est un peu, c'est son premier Noël. C'est un peu son premier Noël.
On va essayer.
On verra, on vous tiendra au courant, on vous dira. Peut-être qu'il faut. Peut-être on.
D'ailleurs, venez faire à la fête, hein, Radio
Canada. Venez.
Apportez-nous des cadeaux, on vous donne de la joie, vous nous donnez des cadeaux. Attends, qu'est-ce qu'il y a?
Pour ceux qui ont envie pour ceux qui ont envie de passer, il faudra passer, c'est pas un souci, la porte elle est ouverte, hein, de toute façon. Et puis bah, pour ceux qui sont un peu loin ou qui ont froid, parce qu'il fait froid en ce moment,
ils peuvent nous faire un truc, on leur envoie un rib.
Voilà.
Pour ceux qui sont loin. Non,
j'allais juste te dire, restez pas trop loin de vos téléphones, parce que je pense qu'on devrait arriver à faire quelque chose.
Voilà, oui, par téléphone. Ouais.
Ouh. Teaser, yeah. Teaser.
Tout à fait.
Vous voulez faire des trucs par téléphone.
On va appeler Madame Soleil.
Ah, ok, d'accord. Parce que moi, je suis pas bon, bref. Voilà.
3615 Ulin.
C'est ça.
Oui.
On va pas leur faire de pub parce qu'en plus, ça vient de recommencer.
Ah oui, donc,
on n'en parle pas.
Mais ça n'existe pas le Minitel.
C'est vrai, mais
si je m'en souviens, ça veut dire que ça n'existe plus, c'est sûr. D'accord.
Et sinon, on peut faire je suis Armand, votre voyant. Appelez-nous.
Oui.
Donne le numéro de Canu.
Ah, de Canu, tiens. Allez,
notez-le, les gens.
Allez, on note le numéro de Radio Canu, le studio. C'est le 04
78
39
18
15.
Et le numéro complémentaire.
Appelle-nous. Now. Bon,
c'est même pas surtaxé, c'est ça qui est top.
Mais ouais, grave.
C'est vraiment bien.
On peut faire l'amour par téléphone gratos. Ah non, c'est pas pour ça qu'ils nous appellent.
Bon, excusez-nous, c'est une bonne décompression de fin de causerie.
Oh bah oui.
À la semaine prochaine, tout le monde.
Au revoir, à bientôt. Et merci le public qui est venu nous voir.
Mais grave.
On applaudit.
On applaudit le public.
Bravo les filles. Salut. Voilà. À bientôt.
Parce que je sais pas comment vous faites pour nous écouter une heure.
Ouais. Là, une heure et demie parce qu'on a explosé le truc.
Non, t'as pas entendu presque.
Ouais.
C'est dommage. Ah alors bon, les petits lapins et les petites lapines.
Et ensuite, c'est quoi le titre de fin?
Le titre de fin.
Allez, les rigoleuses. Ah non.
Allez, Emma. Sa première à la technique ce soir.
Ouais.
Tant d'émotions.
Mazel tov.
Donc on se quitte avec Regina Spektor avec le titre Os.
Yeah.
Allez, voilà, c'est parti.
Bonne semaine.
À tantôt.
They made a statue of us. We'll be right back.
de cette mutinerie. On abandonne pas, on se renie pas. À travers ces barreaux, le poing reste levé. Redonne un peu de souffle à tous les sens.